vivant dans nos mémoires.
À l'émission « Vivant dans nos mémoires », nous vous proposons une entrevue avec Vincent Coulombe, ancien directeur du Théâtre des Fantaisies Lyriques, décédé en 2022. Danny Benz l'avait rencontré en octobre 2006.
Bienvenue, mesdames et messieurs, c'est Danny Benz au microphone et je vous accueille ici dans cette première partie de l'émission. Aujourd'hui, je reçois pour vous un invité qui a mené une vie double, une double vie. Alors, il va nous en parler, je pense que ce n'est pas honteux. Il a été tour à tour enseignant et il a aussi brûlé les planches en étant chanteur basse du côté des fantaisies lyriques. Il va nous parler de tout cela au cours de ces deux émissions. J'accueille donc avec grand plaisir celui qui a mené une vie double, Monsieur Vincent Coulombe, bonjour à vous.
Bonjour, madame.
Comment allez-vous?
Mais très bien, merci.
Bon, alors vous avez souri et c'est vrai que vous avez mené une vie double.
C'est tout à fait accidentel, mais c'est comme ça qu'on faut le dire.
Oui, oui. Parce que vous l'avez fait de façon parallèle, similaire, en même temps.
C'est tout arrivé dans une succession d'événements qui finalement ont abouti à cette image que j'ai mené une vie double.
Oui. Oui. On va parler peut-être aujourd'hui, une des fois où on vous a reçu ici à Radio-Galilée, vous étiez en compagnie de votre successeur, celui qui a pris la direction du nouveau théâtre des fantaisies lyriques, Alexandre Malenfant. Mm-hmm. Vous étiez venu nous parler de cette production, pas cet été-ci, l'été d'avant.
Oui.
Et c'est là que vous avez remis les rênes. Que se passe-t-il depuis ce temps-là dans la vie de Vincent Coulombe?
Il se passe encore énormément de choses. D'abord, je continue toujours à écrire des scénarios. Je viens justement d'en terminer un pour la paroisse Saint-Louis de France, qu'on a présenté d'ailleurs le 14 octobre dernier.
Pour le 50e anniversaire.
Pour le 50e, exactement. Mm-hmm. Et pour lequel j'ai aussi joué encore un rôle de curé. J'ai une propension, semble-t-il, pour réussir dans ce type de rôle. Et puis, j'avais aussi joué l'année dernière avec Alexandre, l'été dernier. Et puis là, j'ai quelques projets pour le 400e là, d'écriture encore. Là. Je me regardais vendredi, puis j'étais en train de me faire des résumés de trois scénarios possibles à venir, que j'offrirai évidemment à ceux qui en voudront bien.
Donc, finalement, je me suis trompée dans l'introduction, c'est pas une vie double, c'est une vie triple, parce que ce ne sont pas tous les interprètes qui écrivent, et vous avez toujours fait les trois, dans le fond.
Oui, c'est vrai, j'ai toujours fait les trois, et pas seulement dans le domaine du théâtre. J'ai aussi écrit un atlas mondial du temps que j'étais enseignant. Ça fait que finalement, ça fait beaucoup de choses.
Oui. Et pour vous, cette écriture qui semble être aussi au cœur de ce que vous faites actuellement, même en ayant quitté du moins la direction du Théâtre des Fantaisies Lyriques parce qu'il vous lâche pas, est-ce que ça, pour vous, c'est fastidieux? Ça coule de source? C'est quelque chose de facile? Comment ça fonctionne pour vous, l'écriture?
Ce serait prétentieux de dire que c'est facile, mais je ne ressens vraiment aucune difficulté à le faire. D'abord, je pars toujours avec un sourire là-dedans. Moi, faut toujours qu'il y ait quelque chose de drôle, toujours quelque chose d'humoristique. C'est ma perception des choses. Je suis pas né pour écrire des drames ni des tragédies. Il y en a assez comme ça. Alors, je trouve le filon qui pourrait faire que la pièce ou la représentation soit drôle, soit agréable, fasse sourire tout au moins. On laissera aux humoristes le gros rire. Et puis, je réfléchis pendant un bout de temps, puis hop, à ce moment donné, ça décolle. Ça décolle, je suis difficilement arrêtable à ce moment-là. Ça me prend pas deux mois, trois mois. J'ai déjà écrit un scénario dans un dimanche après-midi.
Oui.
Il faut savoir ce qu'on a à écrire, hein. Et puis le plus difficile là-dedans, c'est pas tellement l'écriture, parce que moi-même étant un peu placoteux, j'aime écrire les dialogues, j'ai de la facilité pour ce placotage. Et comme j'aime beaucoup l'humour, je m'en sers énormément. Et mais par contre, pour les situations, là, des fois, c'est un peu inventé, c'est un peu gros, mais quand même, la difficulté vient du fait surtout de trouver de la musique qui va coller aux situations. C'est pas toujours facile, hein. Et, prenez, quand on écrit pour une paroisse, par exemple, puis que tu fais chanter croix au curé, c'est pas drôle, là. Et puis, quand on te demande, il faut que ce soit un peu surhistorique, il faut que ce soit drôle en même temps. Finalement, ben, à titre d'exemple, j'ai eu un dialogue avec le Très-Haut dans ce scénario-là, et où je me plaignais que c'était une lourde tâche que de prendre une paroisse, puis le Seigneur me dit, écoute un peu, c'est pas la première croix que tu portes. Ce qui m'a donné l'idée, en écrivant ça, tiens, les croix de Gilbert Bécaud. Et puis, je l'ai glissé là-dedans comme ça. Mais c'est pas toujours aussi facile, c'est pas toujours aussi évident. Des fois, la chanson fait qu'on crée une scène, puis des fois, la scène demande une chanson. C'est la principale difficulté. Mais pour le reste, ça va assez bien.
Bon, et vous vous inspirez où vous cherchez vos lignes, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous, de la part des autres, vous atteint, des autres créateurs?
Là, au risque de paraître encore prétentieux, je ne vais pas au théâtre. Et puis, je ne lis pas de pièces de théâtre non plus. Je regarde Vive le monde. Puis, à un moment donné, il y a une idée qui me fait sourire. Ça peut être, par exemple, une phrase qui est lancée dans une émission où l'intervieweur, comme j'ai entendu récemment, fait une faute de français épouvantable. Alors, ça me donne l'idée. Et si on en faisait une pièce sur un intervieweur qui fait des fautes de français? Ça fait que là, je me dis, parce que le type, le pauvre type d'ailleurs, ça veut dire, nous avons vécu des événements mémoraux. Alors, j'ai dit, quelle bourde! Mais ça me fait rire, ça m'a fait sourire. J'ai dit, faut penser peut-être à ça.
Oh mon Dieu, je vais me tenir sur mes...
Vous n'avez rien à craindre.
Господь,
On vient d'entendre cette première pièce. Je vous rappelle qu'à l'émission, ce sont nos invités qui font les choix musicaux. Et M. Coulombe nous a apporté un de ses vinyles qu'il fait encore probablement tourner chez lui. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
C'est un vinyle sur lequel il y a une pièce que j'adore particulièrement. D'abord, il faut vous dire qu'en tant que chanteur à voix grave, les opéras russes sont dans mes champs de prédilection. Et un bon jour, je mets la main sur un disque, un vinyle, évidemment, de, comme vous l'avez si bien mentionné, de Boris Christov. C'est une belle basse russe, plutôt une basse chantante qu'une basse profonde, mais dont la qualité du timbre est magnifique. Et il chante là-dessus une chanson d'un opéra qui avait été banni du temps de Staline. Oui, c'était une vie pour le tsar. Évidemment, tout ce qui était tsariste ou qui sentait le tsar, si on peut parler ainsi, était banni complètement. Et pourtant, Glinka, qui en est l'auteur, avait voulu en faire un opéra national. Et ça a joué pendant des dizaines et des dizaines d'années, jusqu'au jour où, paf, on coupe tout ça d'un coup sec. Et puis, c'était impossible de retrouver la partition. Mais moi, j'entendais l'air. Ils ont découvert la vérité, c'est la Chouyou de Pravdou. Puis, je me disais, c'est donc plein de franchise, de peine, de peur et en même temps de sérénité, cet air-là. Ça fait que c'était tout ça qui faisait que je regrettais qu'on ne l'entende jamais. Hein? Probablement parce que c'est inaccessible. Puis deuxièmement, ben, je cherchais la partition à tour de bras. Je le raconte parce que c'est... Alors, un jour, j'étais à Paris et je cherchais dans des boîtes à musique, les magasins de musique, la fameuse partition. Une madame charmante qui m'a dit « Monsieur, oui, nous l'avons, regardez. Oh, » J'ai dit, vous l'avez, je regarde la partition, c'était épais comme ça. On ne le voit pas à la radio, mais je vous garantis que c'était épais. Et puis, je me demande, est-ce que je pourrais avoir une photocopie de cet air? Elle dit, monsieur, on ne peut pas, on vous vend la partition au complet ou vous n'avez rien. Je n'avais pas les moyens de l'acheter. Alors, je suis revenu bredouille, si on peut dire. J'avais acheté bien d'autres choses, il faut le dire. Et puis, un beau jour, je rencontre lors d'un concert gala, M. Skafaranski, un chanteur, une basse. Puis on parlait ensemble. Puis je lui demande ça. Je dis, avez-vous déjà dans votre répertoire Chouyou de Pravdou de Glinka? Mais il dit, oui, je l'ai déjà chanté. Ah, vous l'avez déjà chanté? Mais c'est extraordinaire. Est-ce que vous pourriez me l'envoyer? Il me l'a envoyé.
Ah, oh, oui.
Oh, j'étais ravi. Puis là, je regarde encore, c'est une partition jaunie un peu. Là. Ça, là, elle a de l'âge. Là. Puis un jour, je la prends tranquillement pour que les mots soient bien en place. Puis. Un jour, je la chanterai sûrement.
Oui. Alors, vous, Vincent Coulombe, on l'a dit tout à l'heure, vous avez, entre autres, été à la direction pendant de nombreuses années, plus de 20 ans, je pense bien,
oui.
Au Théâtre des fantaisies lyriques. Est-ce que, pour vous, ça a été, par rapport à votre carrière de professeur de géographie, on y viendra, est-ce que c'est indissociable, je le pense bien, mais ça a été vos années, je dirais, les plus chargées en production, en émotion, comment vous les qualifieriez, vos années Théâtre des fantaisies lyriques?
Oh, la plupart de mes années ont été belles. J'espère que les prochaines le seront aussi. Mais ce que j'aimais là-dedans, c'était la fébrilité. C'est-à-dire que j'enseignais à temps complet, puis dès que le printemps arrivait, un peu comme les oiseaux, je commençais à chanter. Et puis là, les examens arrivaient. Puis là, je me mettais à écrire mes affaires. Mais comme on finissait pas trop tard, on finissait vers le 10 mai, là,
oui, au près, niveau cégep.
Au niveau collégial, mm-hmm. Donc, ça avait des avantages. Et puis là, je me mettais à écrire le scénario qui venait pour l'été. Puis c'est ainsi, évidemment, on avait les réunions, là, mais ça prenait pas de mon temps. Il y avait quand même le soir, il y avait quand même d'autres moments. Et puis c'est à ce moment-là que je faisais tout ça, puis qu'on commençait en juin à tout mettre en place, la mise en scène, les pratiques, etc. C'était plein. Le temps que je vivais était un temps rempli. Et puis, il y avait toujours le plaisir aussi de jouer ça pour les gens. Les gens l'été, il y avait une clientèle fidèle qui venait tout le temps. Et je revois énormément de visages là-dedans, qui ont vieilli, bien sûr, parce que quand j'ai pris le théâtre des fantaisies lyriques, en 84, je pense, il y avait déjà des personnes âgées qui venaient. Mais à un moment donné, j'apprenais qu'une telle est décédée. Veuillez ne plus envoyer le courrier, des choses du genre. Ça, c'est un peu attristant, mais je me disais, au moins, ils ont ri dans leur vie. Ils ont passé deux, trois bonnes heures avec moi, puis C'était thérapeutique, au fond.
Oui.
Oui, je le voyais comme ça.
Et vous avez reçu, pour votre travail inlassable, c'est comme ça qu'on le qualifie, la médaille de l'Assemblée nationale. C'est en fonction de ce que vous avez fait dans ce théâtre des fantaisies lyriques. Comment est-ce qu'on se sent quand on se présente comme ça à l'Assemblée nationale pour recevoir cette médaille?
D'abord, il faut que je vous dise, que je précise que c'est tout ça s'est passé au théâtre même, la première de ma dernière année. C'était, je ne sais pas qui avait arrangé tout ça. J'ai pas cherché à le savoir non plus. Mais j'ai pleuré. Oui. D'abord, je m'attendais pas à ça du tout. C'était une soirée comme une autre. C'est la gaieté de part et d'autre. Et puis, à un moment donné, on m'avait dit, ben, habille-toi comme du monde, là. Pourquoi? Parce qu'il dit, ah, tu vas peut-être bien rencontrer des gens. Bon, c'est correct, on rencontre toujours des gens, députés, n'importe quoi. Et puis, l'idée, ça m'avait pas effleuré, mais pas effleuré du tout, du tout, du tout. Puis, à un moment donné, j'arrive à l'arrière du théâtre, puis les gens étaient en rond, disposant en demi-cercle. Ils ont dit, monsieur le député, un tel va... qu'il me pardonne d'oublier son nom.
Monsieur Jean-Pierre Soucy.
Monsieur Soucy, oui. Charmant, un homme charmant. Qui va t'adresser la parole. Comment ça, il va m'adresser la parole? Je dois rien, M. Soucy, il me doit rien. C'est quoi l'idée, là?
C'était le député de Portneuf.
C'est encore le député de Portneuf, oui. Aussi. Et puis, qui fait son laïus, puis il me donne ça. Ah, là, je m'en cache pas. Je suis encore assez sensible. J'évite la sensiblerie, mais là, vraiment, ça m'a touché carrément au cœur. Surtout que je voyais tous les gens avec qui j'avais chanté, beaucoup de gens avec qui j'avais chanté, qui ne chantaient plus pour moi. Ou avec moi, devrais-je dire, un peu alentour de. Puis là, ça a été un moment à la fois sublime puis difficile.
Oui.
Ouais. Mais à la fin, j'étais bien content. J'étais bien content. J'ai eu une réaction d'enfant, autrement dit.
Ça vous a touché au cœur.
Ah, directement, oui. Directement.
On va aborder peut-être aussi maintenant ces questions de pouvoir faire cette double et triple vie, si vous le voulez bien. Mm-hmm. Parce que, bon, l'Atlas Beauchemin, si j'ai bonne mémoire, on l'a tous à peu près eu dans nos classes de géographie. Mm-hmm. C'est un atlas qui a trôné dans des dizaines, voire des centaines de classes. C'est donc vous qui en êtes un des co-auteurs.
Oui.
Et vous avez enseigné la géographie. On sent votre amour de la musique et tout ça. Parlez-moi de votre attachement à la géographie.
La géographie, comment? D'abord, faut un peu savoir comment est-ce qu'on y arrive. Au fond, quand on fait des études classiques, comme il n'y a pas rien que Lucien Bouchard qui en a fait, incidemment, et réussi, on se demande à la fin qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on veut devenir. Je dirais, il y a à peu près 20% des gens qui le savent vraiment. Le reste ne le savent pas, et la plupart du temps, quand on se revoit après, ils ont bifurqué, ils ont fait d'autres choses, c'est pas plus grave que ça, remarquez, c'est la vie. Alors, moi, vraiment, une chose qui me passionnait, c'était l'archéologie. C'est drôle à dire, mais les origines, puis les vestiges, puis bon. Et ça se donnait pas. Il n'y avait pas d'archéologie à l'Université Laval, il n'y avait pas d'anthropologie à l'Université Laval, il n'y avait rien de ça. C'était quand même dans les années 56, 58, quelque part par là. Alors, j'ai décidé donc d'aller d'abord en pédagogie pendant un an, puis d'enseigner pendant un an, mais là, ça donne que j'enseigne l'histoire et la géographie.
Je vous l'ai dit,
c'est toutes des coïncidences qui sont arrivées. Alors, ça m'a plu. Et puis, je suis allé voir le directeur, j'ai dit, qui me demande, est-ce que vous revenez l'année prochaine? On souhaiterait bien vous revoir. Je n'avais pas eu de difficultés trop. Fait que je lui demande, excusez-moi, j'aimerais aller me perfectionner en géographie. Ça fait qu'il m'a donné la permission. Je vous raconterai quelque chose après.
Thank you.
un magnifique air d'opéra qu'on entend même dans les milieux cinématographiques. C'est un beau choix. Merci beaucoup de nous avoir offert ça, M. Coulombe.
Ça m'a fait grand plaisir. C'est très émouvant, cet air. Hein? C'est surtout que c'est chanté par Tebaldi. Alors, on se trompe pas beaucoup.
On en était à votre bifurcation de géographe, et là, vous aviez été transporté par un directeur qui vous a donné des permissions spéciales.
Ben, il n'a pas donné une permission spéciale. C'est moi qui lui ai demandé d'aller me perfectionner, au fond. Et puis, il est parfaitement d'accord, mais il dit, à condition que vous reveniez, ben, on verra. Ça fait que j'ai fait 4 années de géographie. Et puis, en sortant de... C'était à Chicoutimi, ça. Et puis, en sortant de la faculté ou de l'école de géographie, je m'en viens voir mes anciens professeurs ici à l'Université, pas à l'Université Laval, mais à l'Académie de Québec dans le temps, qui est devenue le cégep de Sainte-Foy plus tard. Et puis, j'y rencontre l'un de mes anciens professeurs. Ah! Puis, on dit, qu'est-ce que tu fais ici? Bon, je cherche un emploi, je viens de terminer, etc. En quoi? Je leur dis, en géographie. Ça tombe très bien. On a un professeur de géographie, puis il s'en va en Afrique, on ne sait pas s'il va revenir. Veux-tu l'emploi? C'est que vous voulez que je dise, quand je vous parlais des multiples accidents de ma vie, c'en est un. Fait que ça arrive, là, certainement, je le veux, d'autant plus que j'étais à temps complet, mais ça, faut pas que je le dise trop fort sur les ondes, pour 9 heures par semaine. Ça fait que ça m'a permis d'amorcer une carrière d'enseignant, là, qui s'est diversifiée un peu, quand même, pendant 5 ans, où là, j'ai été directeur de la recherche et de l'expérimentation, en tant qu'adjoint au service pédagogique, à la direction du service pédagogique. Mais après ça, je suis revenu dans l'enseignement, un de mes premiers amours.
Mais qu'est-ce qui vous stimulait dans la géographie pour elle-même?
Moi, c'était pas un géographe, de voyage, pour le voyage, puis les vastes espaces, puis les vastes horizons. Alors, remarquez que je les ai bien aimés. Je suis allé, entre autres, pendant j'étais étudiant à la Terre de Baffin pendant un été de temps. Des vastes espaces, quand t'as même pas une petite épinette là, qui te bouche l'horizon, ça, c'est de vastes espaces.
Oui.
Et puis, mais pour le reste, j'étais surtout porté, moi, vers la géographie thématique. D'abord, la géographie physique m'intéressait beaucoup. Ensuite, la géographie thématique, comme par exemple les problèmes du monde contemporain, les grands défis de la planète, ou encore... un cours que j'avais mis sur pied en géographie de la santé.
Géographie de la santé?
Ah oui, bien sûr. Il y a des espaces.
Il y a des endroits dans le monde où on est plus en santé, d'autres où on l'est moins?
Il y a des endroits dans le monde où il y a certaines maladies puis qu'on ne retrouve pas ailleurs.
Mm-hmm.
Il y a des choses assez bizarres. On se demande pourquoi, par exemple, dans un pays tropical où la malaria règne, hein, on en retrouve pas partout. C'est pas compliqué. C'est que la mouche... la tsetse ne peut pas vivre quand la température est en bas de 4 degrés. Alors, quand tu t'en vas en montagne, la température baisse, puis là, finalement, hop, il n'y a plus de malaria.
Oui.
Alors, c'est un exemple d'espace, d'un espace géographique qui limite des choses. Alors, il y a des maladies qui sont dans certains pays qu'on ne retrouve pas chez nous. Il y a des maladies qu'on a chez nous qu'on ne retrouve pas ici, là-bas, ou encore qui sont plus développées ici. Les maladies cardiaques, par exemple, le nord du Québec ont des maladies qui sont beaucoup plus différentes de ce qu'on a ici. L'espérance de vie change, c'est moins longue ici. En fait, finalement, on fait un portrait de la planète, un portrait de la santé des gens sur la planète, beaucoup plus que de la santé en général. On aurait peut-être pu dire, avec beaucoup plus de précision, géographie des maladies.
En fait, c'était l'aspect humain rattaché à la géographie, si je comprends bien.
Oui. Même quand on parlait des catastrophes naturelles ou des cataclysmes, comme on m'a déjà corrigé, c'était aussi quels effets que ça peut avoir au plan humain, au plan économique, pour les structurels des populations. C'est tous ces aspects-là. Mais j'oubliais jamais quand même toute la mécanique physique là, qui était à l'origine des phénomènes, soit des avalanches, soit des tremblements de terre, ou les volcans, quoi.
Alors, on entend que vous avez eu, dans ces années d'enseignement, quand même pratiquement 25 ans d'enseignement. Si on enlève les années où vous étiez davantage du côté recherche et administratif, une fougue et un intérêt pour vous, donc, voir ces jeunes adultes, en fait, au niveau collégial, ça en sont à peu près tous des jeunes adultes. C'était aussi stimulant pour vous, ce contact avec des personnes devant vous?
Je vais vous faire une confidence. Je n'ai jamais tourné le dos à mes élèves en enseignant. Je n'ai jamais écrit au tableau. J'ai toujours écrit au rétroprojecteur pour les avoir en face de moi, pour avoir leur réaction.
Oui.
C'est extraordinaire. Hein? Il y a peu de gens qui pensent à ça. Hein? Il y a en bas des professeurs qui noircissent des tableaux. Qui est noircisse. Il est
blanchisse.
c'est curieux qu'on dise ça quand même. Hein. C'est des choses aberrantes comme ça.
Il y a une pièce de théâtre là-dedans.
Non, Et puis, non, moi, j'aimais absolument avoir la lumière dans leurs yeux ou encore la bêtise. Ça, avec une, il y en a qui, ça lui prenait plus de temps que d'autres, mais c'est pas plus grave que ça. Mais quand même, c'était les voir. Hein, et puis d'ailleurs, ce contrôle, le contrôle de disciplinaire est facile à ce moment-là. Il s'agit de les regarder.
Oui, avec le tempérament que vous avez.
Bon, j'ai eu beaucoup de plaisir avec. Puis mes anciens élèves que je rencontre de temps à autre se rappellent encore de mon humeur. J'arrivais de bonne humeur, fougueux.
Mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième portion de l'émission que nous avons débutée. Et aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de celui désormais baptisé, celui qui a mené une triple vie. Il fut professeur de géographie au Cégep de Sainte-Foy pendant plusieurs années. Et il fut également l'âme et le directeur pendant de nombreuses années aussi du Théâtre des Fantaisies Lyriques. Il a aussi signé de nombreuses fantaisies. Il a chanté beaucoup. On va essayer de savoir aujourd'hui comment tout ça est arrivé, le début de ses chants. Il est chanteur basse, c'est comme ça qu'il se présente. C'est M. Vincent Coulombe qui est là, M. Coulombe. Alors, on en était à essayer de savoir, à reculons toujours dans votre vie. Vous nous avez parlé de vos années, donc le fougueux professeur de géographie du Cégep de Sainte-Foy, c'était vous. Mais on sent, on voit, on perçoit que dans votre personnalité de chanteur, il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il s'exprime. Et donc, du jour où vous avez pu vous rendre compte que vous aviez un certain talent, vous avez aussi cherché à le perfectionner. Comment c'est arrivé?
Comment c'est arrivé? D'abord, il faut vous dire que j'aimais, puis j'aime encore d'ailleurs, beaucoup chanter dans les chorales, dans les chœurs. D'ailleurs, je fais aussi encore les chœurs d'opéra. Et puis, un bonjour, le directeur, c'était M. Dumas, qui dirigeait une chorale à Sainte-Foy. Et puis, il ouvrait un atelier, au conservatoire, un atelier lyrique. C'était le premier atelier lyrique. Alors, je lui dis, je vois ça dans le journal, puis je m'informe. Est-ce que vous pensez si j'allais passer l'audition? Mais lui, allez, venez. C'est correct, je vais y aller. Mais en arrivant devant le conservatoire, je ne voulais plus entrer. Je me suis dit, quelle audace, finalement, avec la formation que j'ai. Advienne que pourra, j'entre, j'auditionne et on retient mes services pour l'atelier. C'est à l'occasion où j'ai rencontré des bons chanteurs. D'ailleurs, le directeur actuel de l'Opéra de Québec. Ensuite, Édith Tremblay aussi, qui a fait une belle carrière en Europe. Enfin bref, on embarque là-dedans, puis on se fait à chanter, puis ça va très bien. Madame Tremblay, qui chantait aussi l'été à Château-Richer, dans un petit théâtre en tôle, me dit, on cherche une voix grave, une basse, est-ce que tu viendrais? Ben oui, je vais y aller, ça me ferait bien plaisir. Là, tout a commencé. Je continuais cependant à faire de la chorale, puis j'entends à un moment donné, dans une salle à côté, des gens qui pratiquaient de l'opéra. Alors, c'est quoi ça? Fait que je m'en vais voir, c'était Bertrand Gay qui dirigeait ça. Fait que j'ai dit, hey, ça m'intéresse beaucoup, est-ce que je pourrais en chanter un? Ben, il dit oui, il dit on va en monter. Fait qu'on a monté deux opéras. Des intermèdes, quand même, c'est pas de grands opéras. Livietta et Tracollo, un rôle à deux personnes, un soprano puis une basse. Puis ensuite, la servante maîtresse, la très connue Serva Padrona. Et puis, on a chanté ça. On a fait un petit bout avec ça. On est même allé chanter dans le festival d'été. Et puis, ça continue. Je rencontre toujours le même homme, Bertrand Gay, puis je lui dis, Bertrand, il faudrait peut-être que je prenne des cours de chant. Je me sens pas tout à fait à l'aise. Bon. Je connais une personne à l'Université Laval. très, très bonne professeure, Madame Klimoska. Je la rencontre, ça clique. Je me mets à suivre des cours de chant, j'allais chez elle. Et puis, arrive à un moment donné le moment où, revenant du chalet, en plein été, habillé à la voix comme je te pousse, le téléphone sonne. Et puis quoi? C'était Madame Klimoska, toute excitée. Elle s'excitait beaucoup. Pour dire, alors, venez, Vincent, venez, venez, venez. Elle dit, on fait la flûte enchantée, petit, petit, petit. Je comprenais pas trop. Mais elle dit, venez, venez. Fait que j'arrive, là, pour rencontrer, et j'y trouve, tout en aréopage, Madame Martel, Madame Paré, la doyenne. La voilà qui me demande, qu'est-ce que vous chantez? Elle avait un air plutôt froid. Dans notre langage à nous, on trouve un autre mot qui commence par B. Ça fait que je lui dis, je vais chanter un air de la flûte enchantée, puisque vous montez la flûte enchantée. Et puis, ça commence, un petit clin d'œil de Mme Martel, puis on y va. Puis en plein milieu, strac, excusez les onomatopées, elle dit, c'est assez. Ma voix a arrêté, mon visage a changé aussi, oui. Je peux vous le dire. Elle dit, c'est vous qui faites le rôle. Ah ben là, les bras m'ont tombé. Heureusement, j'ai pas perdu la voix parce que je l'ai chanté quelques fois.
Quel était le rôle qu'on
faisait? Le rôle, c'est le rôle du grand prêtre Zarastro dans La Flûte Enchantée. Un rôle magnifique d'ailleurs, un grand plus de sagesse, avec une aura de maturité rare. Là. Enfin, j'ai chanté ça à l'école de musique. Et là, à l'école de musique, Madame Paris, la doyenne, après la première présentation, m'accroche. C'est une madame qui était physiquement bien bâtie. Elle dit, toi, tu suis le chant, tu t'inscris à l'école de musique. Je dis, quoi? Je dis, madame, j'ai fait à peu près du piano un an et demi. Tu rentres à l'école de musique. C'était autoritaire. C'est ce que j'ai fait.
Yeah.
interpréter du Mozart, c'est déjà quelque chose. Et avoir une voix de basse et pouvoir se permettre ce genre de rôle-là, vous avez dû en...
Oui, c'est... comment dire ça? C'est une chance unique.
Oui.
Finalement, quand tu regardes les compositeurs d'opéra, il y a les Russes qui ont écrit des belles choses pour les basses. On en a un exemple. Ils ont découvert la vérité dont on parlait. Et puis, il y a Mozart qui a écrit des belles choses sur les basses. Les autres, ce ne sont pas tellement forcés, à mon avis.
Non, peut-être qu'ils préféraient les sopranos.
Ou les ténors. Les ténors sont gâtés, oui. Ça, tout le monde le sait. Hein. C'est toujours le héros, hein.
Oui.
La basse, c'est toujours on l'appelle les barbes, d'ailleurs, le grand-père, le sage, le réfléchi, le serein.
Mais on en a besoin.
Ah oui, hein? Absolument, pour calmer tout ça. Il faudrait peut-être aller chanter ça aux États-Unis dans le bureau de la Maison-Blanche. À la Maison-Blanche, ça ferait du bien.
Monsieur Coulombe, depuis que nous parlons, nous abordons les méandres qui ont été votre vie et qui le sont encore, vous avez dit que la vie a semé beaucoup de choses que vous n'avez pas cherchées nécessairement, quoique, d'après ce que j'en comprends, vous étiez toujours finalement disponible et ouvert à ce que la vie pouvait vous apporter. Alors, madame à l'université, madame Tousignan, c'est ça?
Oui, madame.
Qui vous a conduit madame de Paris, force. Oui. Madame Paris-Tousignan qui vous a conduit de force et vous avez obtempéré. Et comment ça s'est passé dans ces locaux-là? Est-ce que...
Ça a été une période, ça, d'une très grande fébrilité, parce que je quittais les... d'abord, j'ai suivi des cours avec Mme Klimaska pendant seulement un an, parce qu'elle a dû quitter. Elle a quitté l'université, son mari s'en allait à Ottawa, je crois. Et puis, finalement, moi, j'ai continué avec Mme Patricia Poitras, une femme d'un raffinement rare, surtout dans les leads. Et puis, je quittais le collège à toute vitesse, comme une queue de veau. Je donnais mes cours entre 8h à 8h30, à 10h, 10h20. J'entrais sur le stationnement de l'Université Laval, puis là, je m'installais devant à côté du piano. Puis là, elle m'appelait mon vieux Vincent. Elle avait pas tort, d'ailleurs. Et puis, quelle vocalise qu'on fait ce matin? Je disais, madame, aucune. Ça fait plus de 8h, 8h30 que j'enseigne, ma voix est placée, chantons.
Le réchauffement était fait.
Ça fait que, elle trouvait ça bien drôle, je l'ai revue après coup. Elle dit, tu faisais ça pour t'amuser. J'ai dit oui, parce que je faisais ça pour mon plaisir aussi, mais pour accueillir quelque chose de plus. Il me semble que ça complétait un ensemble qui méritait d'être, qui méritait, entre guillemets, d'être développé.
Oui. Alors, de belles années, des formations, des rencontres, des gens qui aussi vous ont stimulé dans cette voie-là.
Absolument,
que vous avez poursuivie.
Mais j'apprécie ce que vous venez de me dire tantôt, puisque j'accordais beaucoup de choses au hasard, ce dont vous doutez.
Oui, ce dont je doute.
Mais c'est peut-être ça, c'est peut-être la grande disponibilité que j'avais finalement qui ont permis que les choses arrivent comme elles sont arrivées, finalement.
Oui.
C'est peut-être ça. Je n'ai pas analysé ça. Il faudrait que je m'y penche.
Oui, vous allez peut-être faire ça. Il y a peut-être une pièce de théâtre là-dessus.
Ah oui. C'est extraordinaire. On ne consultera pas le docteur Mayou. Juste une phrase de votre part, c'était...
Monsieur Coulombe, on va reculer un petit peu parce que pour nos auditeurs et auditrices du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va quand même leur signifier, s'ils ne le savent pas déjà, que vous êtes originaire du royaume.
Oui, oui, originaire de Port-Alfred, anciennement, qui est devenu ville de la baie, puis maintenant assimilée, devrait-on dire, et non pas fusionnée, dans la ville de Saguenay. Mais un endroit magnifique, n'eût été de l'usine qui a fait enfermer ses portes. On aurait eu une vue formidable sur la baie des Ors. On l'a encore d'ailleurs. L'usine est fermée, mais la baie reste là, ce qui est un paysage extraordinaire, un fjord saisissant. J'ai encore toutes ces images-là. Et d'ailleurs, j'y retourne régulièrement à tous les étés, me ressourcer là.
Parlez-nous de la famille Coulombe, papa, maman Coulombe, les frères et sœurs.
Papa, maman Coulombe. N'en déplaise à certains, mon père a travaillé beaucoup. Il a même fait plus que son temps. Il a travaillé d'abord toute sa vie sur les corps. De minuit à 8, 8 à 4, 4 à minuit. Et souvent, il faisait plus que sa part de 12 heures et de 16 heures. C'était extraordinaire comme cet homme-là a travaillé. Hein. C'était un petit homme, mais terriblement énergique. Et puis, il y avait 11 enfants à nourrir. Fait que 11, c'est-à-dire 10 vivants. Il y en a un quand même qui est mort à 3 ans. Et puis, c'est quand même du monde.
Hein. Oui.
Ses filles, 4 gars. Ça fait que j'ai travaillé. Pendant ce temps-là, ma mère, évidemment, avait pas besoin d'aller travailler sur le... Il n'y avait pas de... Comment on appelle ça, le travail famille, là? Il n'y avait pas de ça. Ma mère, elle faisait le ménage.
Elle avait de l'ouvrage à la maison.
Elle avait de l'ouvrage à la maison, puis elle priait.
Oui.
Ah oui, je me souviens qu'elle... on avait un évier, mais recouvert de tôle. Puis elle, puis c'est soudé, ça, hein? Et puis, elle frottait ça à tous les jours. Ça venait d'une propreté. C'était un miroir. Mais, chose étrange, je me souviens de cela, elle parlait toujours quand elle frottait. Elle parlait toujours à mi-voix, mais c'était pas un chuchotement, mais un petit peu plus. Puis, je lui demande, mais c'est que vous dites? Parce qu'on disait, vous, dans ce temps-là, à notre mère, elle dit, qu'est-ce que vous dites? Ah, de rien, je prie. C'est tout ce qu'elle répondait. C'est extraordinaire. Ce qui fait que ça ne me surprend pas, puisque le premier des garçons, le premier enfant de la famille, est devenu prêtre à son tour. Et puis, les deux autres, un médecin, moi géographe, et un autre qui est comptable. Ça fait que, quant à mes sœurs, ils ont toutes fait de l'enseignement ou encore de... Comment est-ce qu'on appelle ça, disons, des techniques infirmières, là, oui. Des choses du genre.
Oui.
Ça, ils ont été contents. Mon père est mort à 77 ans. Ma mère est morte à 84 ans. C'était une sainte femme, une femme magnifique. Et je me rappellerai toujours de son visage quand j'ai chanté Zarathustra. Ah!
Elle était éclairée.
Elle était éclairée. Elle dit, tu fais donc un beau prêtre.
Ça, c'est du Rossini. Et vous m'avez dit, ça, c'est pour évoquer mon enfance. Alors, racontez-nous.
Ah, Rossini. Rossini, j'ai tellement aimé ce compositeur-là parce que il y avait un petit côté cabotin qui me séduisait.
Qui vous allait ravir.
Ah, ça me séduisait. puis pour avoir écrit l'air de la calomnie là, pour une voix grave, là, c'était quelque chose. Mais cet homme-là, Rossini, ah oui, il faut que je vous dise, c'est un homme que j'ai tellement aimé que lorsqu'on a célébré, on ne l'a pas célébré d'ailleurs, l'anniversaire de son 150e de sa mort, bon, je le remonte trop vieux quand même, et j'avais écrit un petit scénario qui s'appelait Figaro Sini. Pas beau ça. C'est l'allusion à Figaro qui est tellement connue, et lui-même, on a joué ça à la salle Albert Rousseau, on a joué ça aussi au Grand Théâtre, enfin bref... C'était intéressant. C'était un peu sa vie, une comédie sur son œuvre et les différents types de musique qu'il a composé. Enfin, bref. Alors, pourquoi ça me rappelle mon enfance? C'est lorsque je suis arrivé au cours classique. Parce qu'à Port-Alfred, on avait les quatre premières années du cours classique.
Oui.
Après ça, il fallait émigrer vers Chicoutimi au séminaire, au petit séminaire. Alors, j'étais un enfant d'une incroyable timidité.
Non.
Oui, refermé même sur moi-même un peu, je vais le dire. Et puis, j'arrive dans cette classe-là, puis on avait un frère qui était d'un dynamisme et d'une gaieté et d'une joie, lui, exceptionnelle. C'était un formidable chanteur, c'était un énorme de grande classe. Mais on les a pas tous entendus, les grandes voix. Il y en a une gang, ils sont restés dans leur douche. Et puis, il adorait le théâtre. Il adorait le théâtre, et puis il montait des pièces. Bon. Ça fait qu'il nous faisait déclamer en chaud, fallait déclamer, apprendre pour notre mémoire. Alors, je me souviens de ma première déclamation, « La grenouille et le bœuf ». Une grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Et ça commençait comme ça. Je fondais. Je fondais de gêne et de peur, de timidité. Je me sens encore la rougeur sur les joues. Et puis, il souriait tout le temps. J'ai réussi, fallait bien, quand on avait quelque chose à apprendre, fallait l'apprendre. C'était pas à demi. Et puis, mais j'avais quelques difficultés. Il enseignait aussi les mathématiques, lui. J'avais quelques difficultés là-dedans. Un bonjour, il dit, Vincent, c'était le cours de mathématiques. Toi, il dit, on monte une pièce, là. Oui, bon, va donc apprendre ton rôle dans le parloir. Hey, c'était un endroit magnifique, hein, avec des sièges en velours bleu royal et rouge vin. C'était un beau parloir. Me voilà tout petit là-dedans. Puis, je suis en train, j'étais encore en culotte courte, j'étais le seul d'ailleurs, j'étais tout petit. Et puis en train d'apprendre mon rôle. Et quand on ouvrait la pièce de théâtre, c'était ça, cette pièce de Rossini,
oui,
qui jouait comme pièce d'ouverture tout le temps. Alors j'en ai fait plusieurs et à cet endroit-là, puis ça a continué après.
Monsieur Coulombe, c'est des moments qui passent très, très vite quand on est en bonne compagnie, qu'on a une vie aussi riche que la vôtre. Alors, on va devoir bientôt terminer cette deuxième portion de l'émission. Et vous nous avez dit que ce dernier choix musical que l'on va entendre maintenant, c'est tout simplement par bonheur, par plaisir que vous nous l'offrez. Je vous laisse nous la présenter. Cécilia Bartoli, qui chante?
La pastorelle. Cécilia Bartoli, c'est pas une grande voix d'opéra, là. Il y en a des plus grandes que ça au Métropolitain. Mais c'est une voix que j'aime en raison de sa souplesse puis de sa sonorité. Et puis, elle chante du Schubert. On n'en entend pratiquement jamais. Et quand on en entend, ce sont des leads. Mais là, ce n'est pas un lead.
Alors, tendons l'oreille.
C'est une petite mélodie.
La légèreté d'une ballerine, c'est un peu l'image que ça évoque. Cécilia Bartoli, une de vos favorites.
Oui, surtout le piano qui sous-tend ça, oui. Schubert.
Alors, Monsieur Vincent Coulombe, ce fut une belle idée que de vous recevoir, je pense, en nos studios à Radio Galilée pour nos auditeurs et auditrices. Je vous en avais prévenu, c'est arrivé. Nous en sommes à la finale en rafale. J'attends donc de vous des réponses rapides et succinctes. Si vous aviez le choix, quel pays aimeriez-vous visiter en tant que géographe?
La Russie.
Quelle image vous faites-vous du bonheur?
La musique.
Quel serait pour vous le comble de la misère?
La guerre.
Selon quels critères allez-vous juger que votre vie est réussie?
si je peux continuer à travailler jusqu'à la fin.
Comment est-ce que vous pourriez définir l'amitié?
La rareté.
Qu'est-ce qui vous agace le plus chez autrui?
L'ignorance.
Chez vous-même?
L'ignorance.
Quelle est votre saison préférée?
L'hiver et l'été. J'en ai deux. Parce que j'ai pas vu le S, là.
Non? Et pourquoi?
Vous avez dit qu'elles sont... Pour la pureté de la chose. L'hiver pour la pureté de la chose. Mais j'aime les couleurs d'automne. Je les aime toutes au fond.
Et s'il vous restait officiellement 24 heures à vivre, qu'est-ce que vous feriez?
Mon testament.
Quel est le plus beau cadeau que vous ait fait la vie?
Une certaine intelligence.
Quel est le film, le livre, l'œuvre musicale ou picturale qui vous a le plus marqué?
Dans les livres, plus récemment, c'est un livre très connu, mais ça m'a beaucoup marqué en ce sens que j'ai aimé ça, c'est le fameux livre de Da Vinci Code, c'est bien sûr. Mais avant ça, quand j'étais aux études, Anna Karénine,
oui.
Tolstoï.
Et si pour vous, Dieu est bel et bien là, qu'imaginez-vous qu'il vous dira au moment de votre arrivée en face de lui?
T'as manqué de temps.
Est-ce que vous pourriez résumer votre personnalité en trois mots?
En trois mots. Un peu prétentieux. Sensible. Et volontaire.
Alors, on voudrait maintenant, en terminant, peut-être vous entendre sur quel est votre projet, votre souhait. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour Vincent Coulombe?
Ah, que la mémoire ne m'abandonne pas, pour que je puisse encore me rappeler certaines choses et m'en servir pour écrire.
Vincent Coulombe, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'avoir ouvert votre grand livre de la vie pour nous. C'est Danny Benz au microphone qui vous salue et qui vous donne rendez-vous très bientôt.
À Vivant dans nos mémoires, vous venez d'entendre une entrevue réalisée en octobre 2006 par Danny Benz avec Vincent Coulombe, ancien directeur du Théâtre des Fantaisies Lyriques. Il est décédé en 2022.